Vivante Église, reportage. Avec Marie-Pierre Pavlak.
Août 1944. Le drapeau tricolore flotte à nouveau sur nombre de villes de France. De Paris à Limoges, de Grenoble à Lyon, en passant par Nice et Toulouse, les troupes des forces françaises libres et des forces françaises de l'intérieur libèrent peu à peu, au prix d'âpres combats, le territoire métropolitain. Parmi eux, les membres des corps francs de l'organisation juive de combat, l'armée juive, créée ici, chez nous, à Toulouse, dès juillet 1940. C'est cet épisode méconnu de notre histoire qu'au travers de son ouvrage paru au printemps dernier aux éditions Priva, l'armée juive, une résistance française, va nous faire revivre aujourd'hui Maurice Lugassy, coordinateur régional du mémorial de la Shoah. À sa suite, de rue en rue, nous allons parcourir, comme il nous le dira, les territoires toulousains de l'armée juive. Fin août 2024, je le retrouve devant le 11 de la rue de la Pomme. Au-dessus du linteau de la porte, une plaque sur laquelle deux noms sont inscrits. Et c'est là, devant cet immeuble, que l'idée de ce livre a pris chair.
Oui, effectivement. Cette petite plaque, on la voit à peine. La rue de la Pomme, on entre d'abord avec une plaque, si on entre du côté Monoprix, avec une plaque en hommage au réseau Françoise. Et celle-ci, on l'oublie un peu. Effectivement, ça a commencé là parce que il faut aussi rappeler la mémoire de Monique Lys-Cohen, qui, tous les ans, faisait le 16 juillet déplacer le public qui était venu à la cérémonie en hommage à la rafle du Veldiv, et on se déplaçait tous rue de la Pomme, et elle nous racontait l'histoire d'Ariane Fixman. Mmh. Et c'est vrai que Monique Lys-Cohen a fait ce travail sur le terrain. Elle a aussi organisé des colloques à l'époque où les acteurs de l'armée juive étaient vivants.
Elle était bibliothécaire.
Rue du Périgord.
La bibliothèque du Périgord.
Et son père faisait partie de l'armée juive. Et pour ce livre, je n'ai pas, malheureusement pas pu l'interviewer elle, mais son demi-frère qui nous parle et de Monique Lys et surtout du rôle de leur père au sein de l'armée juive. Donc effectivement, tout a commencé par cette petite plaque très intrigante et par la personnalité de la femme qui est nommée là, Ariane Fixman, Knut, Ariane Scriabin, Fixman, Knut. Elle a plusieurs noms, plusieurs vies qui se superposent.
Presque une femme... un personnage de roman.
Ah, c'est un personnage de roman absolument extraordinaire, Ariane. En fait, rien à sa naissance ne pouvait annoncer qu'elle allait mourir à Toulouse, rue de la Pomme, en 1944. Elle est née dans une famille privilégiée. Elle est la fille du compositeur russe Scriabine. Et elle est la nièce du futur ministre des Affaires étrangères de Staline, Molotov. Mais elle est du côté blanc, donc elle n'est pas comme son oncle avec les révolutionnaires. Et elle vient à Paris au moment de la révolution russe, donc 1917. Et là, elle fréquente les milieux russes, ceux d'Eren Nemirovsky, ceux de Romain Gary, ceux de Nina Berberova. Elle aussi, elle est poète, mais pour l'instant, je n'ai rien retrouvé en poème. J'en fais des recherches du côté mais chercher du côté russe, c'est compliqué en ce moment. Et elle est poète, elle côtoie des poètes, elle se marie deux fois avant de rencontrer David Knut. C'est lui qui va l'amener dans la résistance juive, à ce moment-là, se convertir au judaïsme, et elle est enterrée au cimetière Terkabad. Elle est née en Italie, parce que son père était à ce moment-là en voyage en Italie, et elle est morte à Toulouse. C'est un destin absolument extraordinaire.
Femme passionnée, romanesque,
une passionnariat. Et puis, au moment de sa mort, cela a fait des ondes dans toute la résistance française, pas seulement la résistance juive, parce qu'elle avait amené avec elle, elle était accompagnée de deux filles d'un précédent mariage, dont une, Betty Knut, qui à la fin de la guerre avait été surnommée par les communistes la Jeanne d'Arc juive. Mmh. Donc on a une famille là, absolument fabuleuse, dont la mère est morte à Toulouse, avec elle, Thomas Bauer. Thomas Bauer n'avait rien à faire là. Il était chargé de la propagande, il était chargé de faire imprimer d'abord chez les frères Lyon, puis ensuite où il pouvait, au moment où les frères Lyon ont été arrêtés et déportés de manière très très brutale. Et il n'avait rien à faire là, mais il avait un peu de temps. Et il est venu, et c'était les derniers temps qu'il a pu traverser, puisque c'était un piège tendu par la milice. Et donc ce n'est pas la fin de l'armée juive, loin de là. C'est quand même un moment très difficile. La plaque, elle l'ouvre sur cette histoire qui est très incomplète parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient là. Raoul Léonce qui va être blessé, puis Albert Cohen qui lui dit bébé, qui lui est arrivé en retard, comme toujours certains témoignages disent, et c'est ainsi qu'il a échappé au piège et qu'il a pu en plus sauver Raoul Léonce. Dans un témoignage du docteur Epstein, il raconte comment Ariane Fixman et toute ce groupe et tout un groupe étaient venus le matin prendre le café avant de se rendre dans cet appartement pour une réunion. Et docteur Epstein avait dit à Ariane Fixman, attention, une jeune juive a été arrêtée par la Gestapo, elle est sortie vivante, attention, méfiance. Et Ariane Fixman a dit, si on a peur, on ne ferait rien. Et c'était quasiment son épitaphe.
Alors, si vous voulez, on va repartir en arrière.
Oui.
Là, on était en 44.
44.
44. On va repartir en juillet 40.
Et oui.
Alors, c'est la débâcle. Et on va se diriger vers la rue Minguet-David.
Oui.
Le QG d'Ariane Fixman.
Oui, non, David oui, c'est un lieu. C'est un lieu d'amoureux. Ariane et David Knuth vivent là. Ils sont tous deux poètes russes, ils se sont rencontrés dans ces cercles de poètes russes, et au moment de la débâcle, ils se disent on ne peut pas rester comme cela, et David Knuth, qui déjà sur Paris tenait un journal, a créé un document, que faire? Que faire au moment de la débâcle.
Déjà, mais il fallait déjà être visionnaire, en pleine débâcle.
Non, ce n'est pas visionnaire, c'est avoir déjà une expérience traumatisante. C'est-à-dire que David Knuth est né à Kishinev. C'est très important. Kishinev, aujourd'hui c'est en Moldavie, c'était à l'époque dans l'Empire tsariste. Et Kishinev, en 1903 ou 1904, a subi un pogrom extrêmement important, qui a fait le tour du monde juif jusqu'aux États-Unis. Et dans ce pogrom de Kishinev, David Knuth a perdu beaucoup de frères et sœurs. Ils étaient une fratrie d'une dizaine. Donc, à partir de là, il était question de ne plus subir des pogroms, de ne plus subir sans agir. Et c'est vrai que les membres de l'armée juive viennent de Pologne, de Russie, et ils avaient cette expérience de la persécution. Donc, de cette expérience de la persécution, ils en tirent deux leçons. La première, c'est qu'il faut un État dans lequel les Juifs seraient des citoyens et qui serait un État refuge. Et c'est là que l'idéal sioniste est né. Et alors, pourquoi pas la Palestine? Mais ce n'était pas la première idée. Il fallait un État refuge. Et la deuxième idée, c'est qu'il faut se battre et qu'il faut apprendre à se battre. Parce qu'ils étaient démunis, ils étaient dans les livres, ils étaient dans les yeshivas, les écoles talmudiques, et il faut apprendre à se battre. Donc, ils ne sont pas visionnaires, c'est qu'ils ont la guerre. Alors, c'est vrai qu'en France, s'ils sont en France, c'est parce que la France est un pays, c'est le premier pays à accorder la citoyenneté, l'émancipation des juifs à la Révolution française. C'est un pays où des non-juifs vont défendre des juifs, donc c'est un pays très accueillant. Mais ce qu'ils voient, c'est quand même que le nazisme, les dégâts qu'il a fait à l'encontre des juifs, et pas seulement, dès 1933, puis en Pologne. Là où ils sont visionnaires, c'est qu'ils savent que le gouvernement français, quel qu'il soit, ne pourra pas les protéger du nazisme. Et donc c'est là, effectivement, à la question que faire, eh bien, il faut se battre et créer une armée juive.
Et c'est là que vous faites tomber vraiment des idées toutes faites pour le grand public, pour la plupart. Les Juifs ne se sont pas battus.
Oui, mais c'est faux et archi-faux. Pendant toute la guerre, il existe entre 100 et 150 mouvements de résistance juive. Ouais. Alors, c'est vrai que la résistance armée est minoritaire. Mais fallait-il encore se procurer des armes, avoir les réseaux nécessaires ? Mais à aucun moment, les Juifs ne se sont laissés faire. Il y a même une très belle phrase de Rita Talman, je crois, une historienne, qui dit que toute femme juive à cette époque est une résistante. Déjà, il fallait protéger les siens. Et donc, ils ne se sont pas laissés faire. Ils ont été pris dans un piège. Et on a la conférence des Vian, enfin, on a tout un parcours historique qui montre que finalement, c'est un piège. Et c'est une nasse. Mais toute l'assistance, c'est ce que je montrais dans mon précédent livre sur les justes n'auraient pas pu exister sans la résistance juive qui faisait circuler les enfants dans les trains, qui les amenait d'un lieu à l'autre. Enfin, n'auraient pas pu exister, j'exagère, mais la majorité d'entre eux ont vu arriver des enfants accompagnés par des membres des réseaux juifs. Donc là, ce qui est particulier par rapport aux justes, c'est qu'il s'agit d'une résistance armée. Et dès le début, l'objectif, c'est de créer un groupe armé, ce qu'ils vont parvenir à faire.
Alors, au départ, ils sont deux, et puis quatre, il y a un autre couple qui arrive. À quatre, qu'est-ce qu'on peut faire ?
À quatre, ils ne font pas grand-chose. Il y a quatre, donc c'est avec Aaron Lublin et son épouse Eugenia. Ils ne font pas grand-chose, ils diffusent. Ils diffusent auprès, donc ils font des réunions et ils diffusent auprès des groupes, notamment des juifs russes et polonais. Ils sont là depuis longtemps, ils sont bien installés, c'est-à-dire que Toulouse a reçu au début du XXe siècle beaucoup d'étudiants de l'Empire tsariste. Donc l'Empire tsariste, il faut bien voir qu'il est immense, il inclut la Pologne, qui n'existait pas jusqu'en 1918. Et ces étudiants, notamment, ont participé à la création de Polytechnique à Toulouse. Donc Lublin, Polonsky et beaucoup d'autres Russes sont là depuis des années. Lublin et Polonsky sont ingénieurs. Ils ont fait leurs études ici, se sont installés à Toulouse. Donc Toulouse a toujours été une terre d'accueil, Toulouse et la région. Les Polonais, les Italiens, les Espagnols, on connaît leur histoire. Et on sait combien ils ont participé à la résistance. Pour les Juifs d'Europe de l'Est, pas seulement d'Europe de l'Est, mais pour les Juifs, c'est la même chose. Ils ont aussi participé à la résistance. Mais ensuite viennent d'autres Juifs, comme Albert Cohen, qui lui est né en Argentine, viennent d'autres Juifs à Toulouse, mais ils n'ont pas choisi. Ils étaient démobilisés et on les a envoyés ici, en zone non occupée, de manière à ce qu'ils restent tranquilles. La zone nord veut se débarrasser des Juifs, de toute façon. Et donc ils viennent ici. Et c'est vrai que là, on a ces deux couples qui vont faire ce que font les autres Juifs pendant cette période. De l'assistance dans les camps d'internement, notamment Noé et Sebedou, mais le plus, en particulier le camp de Gurs près de Pau, puis celui de Rivesaltes, le Vernet d'Ariège. Donc, porter de l'assistance, mais déjà, ils ont l'idée...
C'est le premier acte de résistance, ça va.
Oui, une résistance civile. Ouais. Mais ils ont aussi l'idée de créer un groupe de soldats, d'hommes et de femmes, combattants et combattantes. Et c'est là qu'ils vont provoquer aussi des évasions des camps. Et ils vont faire en sorte que des jeunes gens valides et volontaires s'évadent à la fois de Noé comme de Rivesaltes.
Et vous racontez cette évasion...
De Freddy Spilfogel, en bougie de Hanouka. Et c'est le rabbin Kappel qui était aumônier au sein des camps et qui va aider à cette évasion. Oui, il va s'évader déguisé en bougie puis partir en vélo.
Pareil, on a l'impression qu'on est devant un film.
On a des histoires romanesques, absolument. Des histoires romanesques, des histoires d'amour. Cette armée juive qui ensuite va se développer à Nice, à Paris, à Lyon, à Grenoble, et à chaque fois des histoires extraordinaires.
Mais le point de départ, c'est ici, à Toulouse.
Point de départ, c'est pas seulement le point de départ, c'est jusqu'à la fin de la guerre, toutes les actions réalisées, y compris à Paris, sont commanditées depuis Toulouse. C'est le QG. Sauf en 44, Polonsky reste à Toulouse et Lublin va à Lyon. Mais quoi qu'il en soit, Toulouse reste le lieu essentiel. Et puis Toulouse reste le lieu essentiel aussi pour le sauvetage des enfants. Parce qu'ils ont tout fait dans l'armée juive. Ils ont fait tout ce qu'ont fait les organisations juives, y compris les passages en Suisse, y compris les passages en Espagne. Et ils vont créer, c'est assez fou, c'est l'armée juive qui va créer un passage presque balisé, sécurisé, avec des passeurs de confiance et avec des lieux où ils ont moins de risques de se faire arrêter. Et donc les passages en Espagne, on récupère les enfants de toute la France, mais eux-mêmes qui venaient de toute l'Europe, et ils vont partir depuis Toulouse dans une autre rue. Généralement, ils allaient rue Caffarelli, c'était la demeure de Polanski. Ils passaient une nuit, ces enfants, c'était des groupes d'une vingtaine d'enfants, le temps d'avoir le train où ils passaient quelques heures. Et quand le train était annulé, c'était la catastrophe, parce que deux groupes pouvaient alors être ensemble. Rue Caffarelli, elle est perpendiculaire aux allées Jean Jaurès. Mmh. Elle est à trois rues de la gare. Oui, ils ont agi pour sauver les Juifs. C'est ça aussi l'armée juive, c'est ça aussi la résistance juive. C'est une résistance qui va certes viser à faire partir les nazis, à combattre les collaborationnistes, mais aussi, ce que ne font pas les autres, à sauver les Juifs.
Mmh. Avec de cet esprit sioniste, la pensée sioniste qui irrigue ce mouvement de l'armée juive.
Oui, complètement. Alors, encore une fois, c'est l'idée d'un état-refuge. Oui. Donc, des bateaux d'enfants, avant le blocus, ont pu partir vers les États-Unis. Beaucoup d'enfants sont partis dans les années 43-44 vers Barcelone où ils étaient accueillis, et parfois ils partaient vers la Palestine, effectivement. Mais cet idéal sioniste, c'est pas la volonté de créer un état colonisateur, c'est la volonté de créer un état refuge et faire en sorte que sur cette terre la Palestine actuelle, enfin la Palestine qui deviendra Israël, n'est devenue évidente dans leur esprit vers les années 1904, donc assez tôt. Donc notre groupe rentre dans cette idée-là, mais ils ont hésité. Ils ont pensé à Madagascar, les nazis aussi pensaient à Madagascar. Ils ont pensé au Texas, il y a eu une expérience au Texas qui s'est très mal déroulée, parce que certes, ils ont fui les pogroms soviétiques, mais se sont retrouvés face au Ku Klux Klan. Donc ça a été un fiasco total. Et ensuite, la Palestine devient finalement le lieu le plus évident. Tous les ans, les Juifs du monde entier disent à Pessah, le moment du passage, cette fête du passage, l'an prochain à Jérusalem. Et donc, oui, il y a cette idée sioniste, c'est-à-dire l'idée d'un état-refuge dans la terre d'où est né le judaïsme, où est né la Judée, dans Judée, et donc en Israël. Et ils font partie du groupe le plus virulent, le groupe qui s'appelle l'Irgun, qui est dirigé par Jabotinsky et surtout par Menachem Begin. Pour eux, on obtiendra un État juif en mettant dehors le mandataire britannique. Et pour le mettre dehors, il faut utiliser les armes. Alors, on a ce paradoxe où les Anglais sont les alliés en Europe et les ennemis en Palestine. Et Menachem Begin, on le sait, il a commencé comme cela, il a fait de la prison, mais les Anglais n'ont l'ont laissé, et ensuite c'est le premier homme d'État à signer un accord de paix avec Anwar el-Sadat. Mm-hmm. Donc oui, le sionisme est là dès le début, avec ces deux axes, à la fois une terre de refuge pour les Juifs et faire en sorte que l'Europe ne soit pas un piège mortifère.
Et d'ailleurs, chaque nouveau combattant qui entre passe par une cérémonie d'intronisation, je crois.
Oui, oui, complètement, c'est ça.
Il s'engage justement à lutter contre le nazisme.
Et à participer à la création de l'État d'Israël. Ceux qui refusent ne rentrent pas dans l'armée juive. Ils sont, dans les archives sur lesquelles j'ai travaillé, entre 1600 et 1900, ce qui est immense. Donc c'est vrai que c'est une aventure absolument extraordinaire.
Ouais. Avec une cérémonie, avec un rituel, un petit peu, comment on pourrait dire,
un peu maçonnique, mais qui n'avait rien maçonnique. Oui, oui, dans l'obscurité. Dans le témoignage de Polanski, il dit qu'ils ont été finalement assez peu trahis. Il y a eu quand même quelques trahisons, mais très peu. Et en tout cas, ce sont des trahisons sous le coup de la torture. Mais il pense que s'ils ont été si peu trahis, c'est aussi parce que cette cérémonie, le fait de prêter serment, eh bien, les liait entre eux. Et d'ailleurs, cette cérémonie, c'était souvent Ariane Fixman qui l'accomplissait. En tout cas, pour Albert Cohen, dit bébé, c'est elle qui va le faire, et pour d'autres aussi.
Et comment entre-t-on en résistance ? Réponse, Rue Balapra.
C'est l'oncle de Marc Lévy, le romancier à succès, qui raconte comment lui, il est rentré dans les FTP, dans le groupe Marcel Langer. Il arrive à Toulouse et il veut se battre. Et là, on l'envoie vers un curé, peut-être le père Braun, peut-être. En tout cas, le père Braun lui dit, si vous voulez vous battre, il n'y a pas beaucoup de groupes armés, il y a les FTP-MOI. Bon, donc il va vers les FTP-MOI. Pour l'armée juive, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que le cœur, le lieu de recrutement, c'est la synagogue rue Palapra. Encore un autre lieu très important dans la géographie toulousaine et dans l'histoire toulousaine. La synagogue de la rue Palapra va rester ouverte pendant toute la guerre.
Et c'est étonnant d'ailleurs.
Non, c'est pas étonnant. Le régime de Vichy, qui se veut maître chez lui, laisse les lieux de culte, même les synagogues. Un rabbin, s'il n'était pas accusé de résistance, comme le rabbin Capel ou comme le rabbin Cassorla, pouvait officier pendant toute la guerre. Et donc, après, c'était un piège. On a eu notamment la prise d'otage à la rue Palapra. Mais pour la zone non occupée, les synagogues restent ouvertes. Ce n'est pas du tout la même chose à Bordeaux, où la synagogue va devenir même un lieu d'emprisonnement. C'est là que Boris Cyrulnik, enfant, sera emprisonné et d'où il se libère, s'évadera. Mais, en tout cas, à la rue Palapra, les offices ont lieu et l'armée juive commence par un cercle d'études avec le futur Vigée, le poète,
Claude Vigée.
Il s'appelait alors, son vrai nom c'est Strauss. Et c'est un groupe d'études, mais dans ce groupe d'études, ceux qui montrent des dispositions physiques ou une volonté, on va leur proposer d'entrer à l'armée juive. En fait, que fait un juif quand il arrive dans une ville inconnue? Il va chercher d'autres juifs. Donc, soit il va chercher les groupes de bienfaisance, qui étaient aussi rue Palapra, dans la synagogue rue Palapra, entre autres, soit il va chercher pour prier ou pour trouver des co-religionnaires. L'autre porte d'entrée, c'est l'Institut catholique, où beaucoup de membres de l'armée juive se réunissaient, faisaient leurs réunions là-bas, notamment dans la bibliothèque dirigée par Mortimer. L'Institut catholique était aussi un lieu où on pouvait se rencontrer et rentrer ensuite. Ils trouvaient alors des fonctions. Certains devenaient fabriquer des faux papiers, d'autres étaient plutôt espions, surveillaient C'est-à-dire, que faisait l'armée juive à Toulouse ou ailleurs? Eh bien,
c'est de la guérilla, c'est quoi ça?
Alors, dans un premier temps, avant 1943, ça va être la naissance des maquis. Donc il y aura un maquis de l'armée juive du côté de Castres. Et puis, c'est surtout des corps francs. Des corps francs, ce sont des groupes de guérilla.
Entre maquis et corps francs.
Ouais. Les corps francs dans la campagne, c'est les maquis. Et les corps francs dans les villes, c'est les corps francs. C'est-à-dire, ce sont des groupes de guérilla, des groupes de guerre, des groupes parallèles à l'armée régulière. C'est pour ça qu'on les appelle les corps francs. Et Toulouse, Paris, Nice, Lyon, Grenoble, ces corps francs, donc c'est des groupes armés qui avaient pour but de tuer les délateurs de juifs. Pour cela, ils avaient aussi des espions dans les préfectures et dans les sièges de la Gestapo. Et quand un délateur était récidiviste, on retrouvait de très nombreuses lettres de cette personne-là, eh bien, il faisait en sorte de le tuer. Donc c'est la guerre, il est éliminé. À Nice, on a comme cela des épisodes rocambolesques que je raconte dans mon livre.
Avec
ces Russes blancs qui étaient mafieux, c'est une mafia qui, à la fois, livrait les juifs, les résistants, tout ce qui pouvait leur amener de l'argent et de quoi aussi faire du commerce, puisque tout passait par les autorités de Vichy et par les autorités allemandes pour pouvoir vendre du vin, faire du marché noir légalement ou presque, enfin quelque chose comme ça. Donc, et à Nice, c'est l'armée juive qui va se débarrasser de ce réseau et tous les autres réseaux leur en seront gré. Mais personne n'avait réussi auparavant à se débarrasser de ce groupe de mafia russe.
À un livre qui est complètement incarné. L'histoire est incarnée, elle est faite par des hommes et par des femmes. Il y a une multitude de noms dans votre livre. Il y en a certains, on sent que vous avez une affection particulière.
Ah, c'est Albert Cohen.
Ce bébé là, dont vous parlez.
Ouais.
Et que l'on voit d'ailleurs sur la photo.
Ah oui, il est à droite. La photo, elle a dû être tronquée pour la nécessité de la mise en page. Et ils avaient enlevé Albert Cohen. Et bon, ils n'ont pas fait exprès, ils l'ont tronqué comme ça au hasard. J'ai exigé. Ouais. Enfin, en tout cas, j'ai demandé à ce qu'il revienne. Et malheureusement, c'est Freiman qui est normalement à gauche. La photo est légèrement incomplète. Donc, Albert Cohen, lui, l'adresse à Toulouse, c'est 2 rue du Rempart Saint-Étienne.
Et donc, on va partir à rue du Rempart Saint-Étienne.
Voilà, on y va. Donc, rue du Rempart Saint-Étienne, il y a une boutique dès 1941. Qui est montée encore par Lublin, Knut. C'est une boutique d'électricité. Elle est tenue par Albert Cohen, dit bébé. Son surnom venait de sa petite taille, 1m59, pas si petit, mais bon. Et puis, il était toujours à vélo, je ne sais pas, après, c'est...
C'était affectueux.
Oui. C'est quelqu'un très apprécié. Ouais, apprécié. Et puis, il faisait le tour de France parce qu'il a une formation de militaire. Et il va aider à l'entraînement. C'est le premier qui va créer le corps franc à Toulouse. Mmh. Il va être aidé. Alors justement, cette boutique, en apparence, c'est une boutique d'électricité. Ce qu'il faut ajouter, c'est fondamental, rue du Rempart Saint-Étienne.
C'est
la vitrine, mais en face, c'est le commissariat général, c'est-à-dire le commissariat central. Mmh. C'est-à-dire qu'à l'époque, le commissariat central était au numéro 17 et 19. Et ils étaient en face, et la vitrine était là pour réparer des postes de radio, mais ces postes de radio contenaient parfois des armes en provenance de Lyon, de Paris ou des maquis. Et puis, à l'arrière-salle, on fabriquait des faux papiers, et on réunissait des jeunes, soit pour les préparer militairement à aller au maquis, soit pour les préparer physiquement à traverser les Pyrénées pour se rendre en Palestine. Et cette préparation physique était effectuée par notre Alfred Nakash, dont les facettes de la personnalité sont inépuisables. Et,
Mais il n'a jamais fait partie de l'armée juive.
Non, il était sympathisant. Oui. Il était sympathisant. Il ne s'est jamais engagé vraiment. Et ce que dit d'ailleurs le frère d'Albert Cohen, dit bébé, Simon Cohen, il dit, s'il s'était engagé, s'il avait prêté serment, on aurait peut-être su, on aurait fait attention. Et on aurait peut-être su pour son arrestation, et on aurait peut-être pu l'éviter. Là, il était, il venait, il partait. En fait, il avait Alfred Nakash avait disposé d'une salle de sport dans une rue perpendiculaire à l'avenue du Languedoc. Et dans cette salle de sport, c'est là qu'il les amenait pour s'entraîner. Et donc, Albert Cohen va avoir un rôle essentiel parce que dès 1941, au moment où il est intronisé par Ariane Fixman, jusqu'à la fin de la guerre, il va aussi, avec une autre grande personnalité qui est Jacques Lazarus, ils vont superviser ce qui se fait dans les maquis et dans les autres villes au niveau de la résistance armée. Ils seront une petite quarantaine, et ensuite ils vont venir, par exemple la photo de l'ouvrage chez Privat, elle est issue de ce maquis. Et on voit par exemple devant Pauline Graff, et elle va ensuite se battre à Paris. Mmh. Elle va ensuite intégrer le corps franc de Paris. Mmh. Jacques Lazarus va diriger tous les autres corps francs. Donc oui, c'est un petit groupe. En fait, c'est un groupe qui se trouve, il y en a un à Chambon, près de Chambon-sur-Lignon, et puis un groupe qui va être avec le groupe des EI, et ils vont participer à la libération de Castres. Et puis à la fameuse attaque du train allemand près de Castres. Donc, c'est un petit groupe qui a surtout pour fonction de... Les maquis, en fait, ils ont pour fonction, certes, d'un harcèlement de l'armée allemande, mais aussi participer aux libérations des villes. Mmh. Et prêter... C'est eux qui avaient les armes, et c'est eux qui avaient l'entraînement. Et au moment des combats dans les villes, eh bien, ils apportent leur savoir-faire et leur armement. Mmh.
Venez nous parler de cette jeune femme. Et j'aimerais qu'on mette en lumière le rôle, la place des femmes, justement, dans l'armée juive.
Elles prennent des risques immenses. Dans le cahier photo, on a tenu à ce qu'il y ait la place des femmes. Il y a Ariane Fixman, et puis il y a cette, cette très très voilà. belle femme, Rachel Shengan, qui elle a agi à Nice et ensuite elle est allée se battre à Paris. Mm-hmm. Une fois que Nice a été débarrassée et puis une fois que Nice a été libérée puisqu'il y avait eu le débarquement en Provence, eh bien ces femmes...
Mais on les trouve partout, à tous les niveaux.
À tous les niveaux.
Elles participent au sauvetage,
c'est-à-dire qu'elles sont... Elles ne sont pas réservées au seul accompagnement des enfants vers la Suisse ou vers l'Espagne. Ariane Fixman, juste avant de se faire tuer par la milice, revenait d'un maquis où elle avait appris le maniement des armes en vue de la libération de Toulouse. Et puis, elles prennent des risques, pas seulement de la surveillance, elles prennent des risques, elles sont là pour poser des bombes, pour se battre. Donc oui, elles sont à tous les niveaux. Par exemple, à Lyon, Le leader de l'armée juive à Lyon, Lambert, se fait arrêter. C'est sa femme qui va prendre le relais. Mais chez les Aubrac, c'est la même chose. Ah oui. Quand le mari est arrêté, c'est la femme qui va organiser son évasion. Puis ensuite, c'est lui qui reprend ses fonctions nationales au sein de la résistance gaullienne. Donc oui, les femmes sont fondamentales et elles font partie des grandes oubliées de l'après-guerre.
Vous me parliez de...
Patricia Graf Rubel. Patricia Graf, son nom de jeune fille, et son nom de mariée, c'est Rubel. Rubel va être l'un des leaders de l'armée juive à Paris. Et ce groupe de l'armée juive, qui est dirigé par Tony Green, ce groupe de l'armée juive va faire plusieurs choses, et notamment, au moment de la préparation de la libération, ils vont être aux ordres de Roll Tanguy, qui était communiste, et avant l'arrivée de la deuxième division qui est arrivée alors que les 9 dixièmes de Paris étaient libérés. Ouais. Et donc ce groupe va se fondre dans les FFI, mais ils restent quand même ensemble, mais ils n'ont pas d'uniforme bleu-blanc ni rien, ils ont l'uniforme des FFI, des forces françaises de l'intérieur. Et Roll Tanguy va leur donner une mission extraordinaire, qui est celle de libérer définitivement le camp de Drancy. Le camp de Drancy, il y avait encore près de 1500 juives et juifs enfermés, et ils vont, avec l'ordre de mission, alors il n'y avait plus d'Allemands, ils étaient déjà partis, mais il était encore fermé, sous les ordres de la gendarmerie. Le régime de Vichy était parti à Sigmaringen, mais il n'y avait pas encore la défaite. Et donc, pour l'instant, c'était le régime de Vichy qui dirigeait le pays officiellement. Et ce groupe, donc Tony Green, Marc Lévy et Rubel, va à Drancy et va libérer définitivement le camp. Or, qui se trouvait à Drancy ? La jeune femme que nous voyons sur la couverture du livre, Patricia, qui était fiancée avec Rubel. Et après la guerre, ils vont se marier, et voilà. Ce que l'on voit, c'est que à la fois la vie continue, les histoires d'amour, les haines, les rancœurs, et puis la notion de hasard, la notion là quand elle se fait arrêter, c'était un piège tendu à Paris. Ils sont très nombreux à se faire arrêter. C'est encore une autre histoire avec le dernier wagon. Mais quand elle se fait arrêter, la chance qu'elle a, c'est qu'elle est à Drancy et qu'elle se fait arrêter peu de temps avant la libération et avant surtout le départ de son chef, le sanguinaire Alois Brunner, qui est parti avec le dernier wagon. Et donc, heureusement pour elle, c'est comme Tony Green, le leader de l'armée juive à Paris, toujours sous les ordres de Toulousains. C'est toujours Lublin et Polanski qui dirigent ces 1600 et 1900 personnes. Et Tony Green se fait arrêter en 1940 parce qu'il s'est battu contre les soldats allemands dans une bagarre d'ivrogne ou presque à Paris. Mais il va être libéré de Fresnes juste avant l'ouverture du camp de Drancy. Si Drancy avait été ouvert au moment de son arrestation, il aurait été à Drancy, il aurait été à ce moment-là parmi les premiers partis. Donc oui, il y a aussi cette question de chance, et Ariane Fixman n'en a pas eu du tout. Elle est assassinée un mois avant la libération. C'est vraiment c'est terrible. Thank you.
À présent, nous allons nous diriger vers la rue Tripière. C'est l'ultime destination de cette pérégrination qui, à Toulouse, nous a mis dans les pas de l'armée juive.
Rue Tripière, on est le 7 juin 1944. Et c'est vrai que 1944 est une année particulièrement terrible. C'est le moment où Alois Brunner prend les rênes de la chasse aux juifs et aux résistants, et il ne demande aucun compte au régime de Vichy, et c'est le moment où il va engager toutes sortes de miliciens, tous ceux qui veulent avoir une certaine importance. C'est assez sordide. Et rue Tripière, il y avait encore une cache, et surtout là, c'était Lublin ou Polonsky qui avait mis ses bureaux là-bas, et il y a eu un piège. Dans ce piège, très bizarrement, Albert Cohen, bébé, était dans les lieux et il fait comme s'il sortait naturellement et il n'a pas été arrêté par les miliciens. Mais il y a eu un homme qui a été arrêté, c'est Friedman. Il va finir ses jours à la prison Saint-Michel. Il va être affreusement torturé et même ils vont rentrer en contact avec lui. Tout ce qu'il va demander, c'est du cyanure. Il ne va même pas essayer de faire en sorte qu'il l'évade, qu'il tente. Il est sur aucune plaque, Friedman. Il est sur aucune plaque. Mais ce piège de la rue Tripière, c'est le début de... C'est vraiment le moment où toutes les actions contre les résistants, les juifs, il y a une récrudescence. C'est la période où on va arrêter les prélats et catholiques, où on va vouloir arrêter le cardinal Monseigneur Saliège. Et là, effectivement, ça fonctionne terriblement bien, le réseau de la Gestapo. Rue Tripière, rue de la Pomme, ce sont deux pièges, et à chaque fois des victimes, mais proportionnellement, si peu. J'ai la liste entière, je ne l'ai pas en tête, mais Lublin en fait la liste, il y a une dizaine de victimes, dont des disparus aussi, mais une dizaine de victimes.
Une autre jeune femme qui est tombée aussi, qui a laissé un poème magnifique.
Alors,
Elle s'appelle
Marianne Cohn. Alors, Marianne Cohn faisait partie de l'OSE, de l'œuvre de secours aux enfants. C'est-à-dire qu'en 1943, là aussi c'est un coup de génie de Polonsky et de Lublin, ils vont fédérer les organisations juives. C'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte de coordonner les organisations juives. Donc, l'OSE qui fait le passage en Espagne avec en Suisse, là c'est pour la Suisse, avec notamment le Mime Marceau qui en participe, eh bien, à partir de 1943, la direction, elle est encore toulousaine, elle passe à Toulouse, elle passe à l'armée juive, à Lublin, Polonsky. Et c'est lors d'une précédente arrestation qu'elle avait écrit cela. Donc c'est Marianne Cohn. « Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles, je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage. Moi, je sais. Vous êtes cinq mains dures avec des bagues. Vous avez aux pieds des chaussures avec des clous. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Demain. Il me faut la nuit pour me résoudre. Il ne faut pas moins d'une nuit pour renier, pour abjurer, pour trahir. » Pour renier mes amis, pour abjurer le pain et le vin, pour trahir la vie, pour mourir. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau, la lime n'est pas pour le barreau, la lime n'est pas pour le bourreau, la lime est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire, je trahirai demain.
Une voix qui, 80 ans plus tard, fait ressurgir la mémoire de ces femmes, de ces hommes, de ces héros de l'ombre combattants de la libération, auxquels, dans une démarche méthodique, historique, rigoureuse, rend hommage et justice aujourd'hui, Maurice Lugassy.
Et c'est vrai que pour ce livre, je suis très très heureux parce que l'armée juive, maintenant, elle est entrée, en tout cas dans la région Occitanie, elle est entrée dans le paysage de la résistance.